Du 6 au 11 novembre, la grenouille se fait l'écho du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt.
Allez, on y va!
On écoute Cal Touré, réalisateur du documentaire « Victime de nos richesses ».
Lors du Forum social mondial, j'ai rencontré des Espagnols qui avaient fait un film intitulé « La Última Frontera ». Et j'ai eu la chance de pouvoir utiliser quelques-unes de leurs images. Et j'ai choisi de prendre les images des grillages, de la frontière, des frontières. Voilà, ce sont les premières images que j'ai eues. Ensuite, en août 2006, j'ai tourné les témoignages d'une trentaine de refoulés. Ces refoulés avaient tenté de passer les grillages pour entrer dans les villes espagnoles qui se trouvent au nord du Maroc, Ceuta et Melilla, ou de passer par la mer pour se rejoindre les Canaries. C'était des jeunes gens originaires, pour l'essentiel, pour la plupart, du Mali. Il y en avait quelques-uns du Congo, d'autres du Cameroun, principalement d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et autour de ces témoignages et de ces images de grillage, j'ai pioché dans mes archives du Forum social africain. J'ai eu la chance de pouvoir tourner des images de Joseph Kizerbo, qui est décédé depuis. Joseph Kizerbo, c'est un illustre historien burkinabé, du Burkina Faso. José Bové, je l'ai tourné lors d'un forum sur le coton. Tous ces forums ont été initiés par Madame Aminata Draman Traoré.
Ancienne ministre de la Culture du Mali et grande figure de l'altermondialisme.
Oui, on va dire surtout grande figure de la résistance en Afrique, plus que ministre de la Culture, poste qu'elle avait accepté un peu à reculons. Et donc voilà, autour de ces témoignages, je donne la parole à des gens de la société civile africaine, mais aussi donc José Bové, français, Jean-Éric Malabre, avocat qui travaille pour Migre Europe, une ONG très impliquée dans la défense des refoulés et des gens blessés, mutilés lors des passages. Qui y a d'autres dans le film ?
Samir Amin, l'économiste.
Samir Amin, qui est un économiste égyptien, qui vit à Dakar, qui est président ou directeur du Forum du Tiers-Monde et Forum des Alternatives, que j'ai tourné en 2008 à Dakar, et qui lui intervient sur le développement et la corruption. Il y a aussi Eric Toussaint du CADTM, c'est le comité pour l'annulation de la dette du Tiers-Monde, donc qui parle de la dette, du processus de la dette, de la stratégie de la dette, on va dire même, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Ce qui me plaît beaucoup, si vous voulez, dans le discours d'Eric Toussaint, je pense que c'est très concis, très clair. Et ce qui me plaît, c'est le ton ironique.
Les banquiers des pays les plus industrialisés avaient des liquidités extrêmement importantes et cherchaient des clients. On a prêté cet argent à des conditions favorables, disant empruntez, vous avez des taux intéressants et des conditions de remboursement sur une longue période. Pas de problème. On a poussé à emprunter pour des projets de développement, l'agro-exportation. Puis on a aussi privilégié des méga-projets énergétiques, des grands barrages ou de grandes centrales thermiques, pour amener de l'électricité pas aux populations locales, mais là où on extrait des minerais stratégiques pour l'industrie aérospatiale, aéronautique ou nucléaire des États-Unis et des grandes puissances. Patatras, la situation change. Fin 1979, au cours de l'année 80, on passe de taux d'intérêt de 4 à 5%, 6%, à des taux d'intérêt de 14 à 17% en 1980-81. Alors ils disent, mais enfin, c'était pas prévu ça. On leur dit, ah, vous n'avez pas bien regardé le contrat que vous avez signé, mon ami. Il y a une petite clause là, on ne l'avait peut-être pas soulignée, excusez-nous. Problème supplémentaire, les prix des produits exportés par le tiers-monde entament une descente très forte. Ça, c'est l'étranglement économique. D'où la crise de la dette du tiers-monde qui éclate en 1982. Vous avez des problèmes de remboursement ? On est là pour vous aider, mes amis. Nous, le Fonds monétaire international. Mais il y a plusieurs conditions. L'argent qu'on vous prête, ça doit servir à rembourser vos créanciers. Les banques privées du Nord, la Banque mondiale, les gouvernements du Nord qui vous ont prêté de l'argent et qui ont formé un petit club, là, bien sympathique, qui s'appelle le Club de Paris. Et je vous prête de l'argent si vous appliquez les plans d'ajustement structurel. Vous abandonnez vos protections douanières, dévaluez votre monnaie. Puis c'est aussi des licenciements massifs dans la fonction publique. Pour pouvoir rembourser, les pays du Sud sont obligés de procéder à de nouveaux emprunts. Les peuples du Sud ont remboursé depuis 1980 la somme fantastique de 3 450 milliards de dollars, alors que la dette en 1980 s'est élevée à 560 milliards de dollars. La dette a été multipliée par plus que 4, alors qu'on a remboursé 6 fois ce qui était dû.
Vous savez, j'ai victime de nos richesses. On était un peu en désaccord avec quelques-uns de mes partenaires. Bon, c'est bien sûr, c'est moi qui fais le film, c'est moi qui décide, mais victime, j'ai gardé ça parce que même avec des proches à moi en Europe, notamment une des mères de mes enfants, oui, il faut arrêter votre victimisation. Mais non, justement, il y a raison d'arrêter. On est victime des richesses, victime de racisme. Il faut en parler et ne pas évacuer ça comme si de rien n'était. Hier, c'était assez amusant parce que quelqu'un, c'était Dominique Vallon, le directeur du festival ici. Il a fait un lapsus que j'ai trouvé très intéressant. Il me présentait et il disait, c'est le réalisateur de Vivement nos richesses. Ah, je dis ça, c'est excellent. Parce que c'est aussi ça. J'aurais très bien pu intituler ce film Vivement nos richesses. Et donc il y a un sous-titre à ce film qui est Pays pillés très endettés. Ça fait référence, si tu veux, à PPTE, qui est un programme des institutions financières internationales qui peut déclarer un pays très pauvre, pays pauvre très endetté. À partir de là, on les soulage de la dette, quoi. Du moins, on réduit la dette, on annule une partie de la dette. Donc voilà, moi j'ai gardé les initiales PPTE, mais à la place de pauvre, j'ai mis pillé. Je voulais aller dans les campagnes, je voulais voir des paysans. Et donc je suis allé dans la famille d'un des refoulés. Et on a rencontré ces deux paysans qu'on voit dans le film, trois paysans, qui s'expriment d'une façon, avec une classe, des paysans maliens. Mais vous avez vu comment ils parlent, quoi. Je veux dire, comment ils se tiennent, comment ils s'expriment, quoi. C'est un niveau quand même, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et principalement, les gens veulent partir parce qu'on ne peut pas subvenir à ses besoins, ni aux besoins de la famille, quoi. Donc on fait tout, on économise pour partir. Parce que d'une part, il ne pleut plus, ou peu, donc on ne peut pas cultiver. Et on n'a pas les outils pour cultiver. Donc on ne peut pas nourrir sa famille. Donc on décide qu'il y en a un de la famille qui va partir. C'est un sacrifice. Il y en a un qui est voilà, le plus fort, le plus apte à résister, à se démerder, à se débrouiller, pour passer, et ensuite pour envoyer de l'argent. Mais sinon, qui veut partir loin de sa famille? Qui veut partir loin de sa culture? On veut vivre ici, chez nous. C'est pas parce qu'on veut vivre chez les Blancs. On veut vivre chez nous. Mais sauf que là, bon, on est obligé de partir. Et vraiment, je suis très content d'être allé en campagne rencontrer ces paysans parce que je trouve que c'est un témoignage hallucinant, quoi. Parce qu'on comprend que c'est quand même des gens qui économisent des petits sous pour avoir une pièce d'identité, qui après partent dans le Maghreb, qui vivent l'enfer déjà au Maghreb, qui font la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, qui travaillent pour payer le passeur et qui se font dépouiller, qui perdent tout. Et qu'entre-temps, ils se sont fait dérouiller par les Tunisiens ou par des Libyens dans les foyers. Et tout ça, pourquoi? Pour rien, pour revenir sans rien à la maison.
Dans notre village, il n'y a pas la matière pour cultiver. Donc j'ai quitté au Gabon, allé au Maroc. Arrivé au Maroc, là-bas, pour aller en Espagne. Donc, en tant que grâce là, j'ai un frère dedans, il s'appelle Philly. Lui, il est mort. Après, il y a un autre là-bas, il s'appelle Adama Sissoko. Lui aussi a réussi le bal. Lui, il n'est pas mort, mais il est paralysé. Il y a un autre là-bas, il s'appelle Issa Sissoko. Issa Sissoko aussi, lui, a réussi le bal avec le pied. Lui, il est tombé, il m'appelle, il dit qu'il a réussi le bal. J'ai dit non, il ne faut pas dire ça. Il dit oui, regarde, il y a le bal. Donc, lui, il est mort comme ça. Toutes les trois personnes là ont réussi le bal, sauf moi.
Dans ce film, Victime de nos richesses, le pillage par le Nord est dénoncé. Il y a aussi de lourdes accusations qui sont portées à l'encontre du Maroc.
Ce sont des accusations portées par ces jeunes gens qui ont essayé de passer et qui ont été confrontés à une violence extrême de la part des Marocains et des Espagnols, mais principalement des Marocains. Le général, quand même, dans le Maghreb, c'est qu'il y a un putain de racisme anti-noir. Et c'est choquant pour ces jeunes gens qui viennent de la campagne, pour la plupart. Jamais ils imaginent ça. Aminata le dit très bien dans le film, elle dit, mais pour nous qui allons et venons, qui sont de l'époque de la décolonisation, nous sommes habitués à rencontrer le racisme en Europe. Mais ces jeunes gens qui viennent des villages, tout d'un coup, qui comprennent que la peau est une barrière, c'est ça qu'elle dit dans le film, très bien. Il ne faut pas que ce soit tabou, il faut en parler, ça, de ce racisme maghrébin, anti-noir. Vous voyez bien dans le film, les paysans qui disent, on est en Libye, voilà, on passe dans la rue, et les enfants nous jettent des pierres. On monte dans un bus, les gens se bouchent le nez.
Mais alors, est-ce que ce racisme de la part des Maghrébins anti-noirs n'est pas exacerbé par la pression de l'Union européenne ?
Dans le film, Jean-Éric Malab le dit très bien.
Quelle responsabilité juridique et quel recours peut-on mettre en place devant des tribunaux européens, devant des tribunaux marocains peut-être, algériens, pour mettre en cause l'action et la gestion politique, policière et militaire de l'immigration en Europe, avec les dommages très concrets qu'elle engendre pour les individus. Des Ceuta et des Melilla, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours depuis des années. Il y en a tous les jours dans le détroit de Gibraltar. Et tous les jours, il y a des gens qui meurent dans le détroit de Gibraltar en essayant de traverser. C'est bien gentil de dire, oh, voyez comment ils traitent les subsahariens. En français, subsaharien, ça veut dire noir. Je traduis pour que tout le monde comprenne. C'est vraiment pas bien de la part des Marocains, mais c'est avec de l'argent français, espagnol, c'est avec des armes italiennes, c'est avec des formateurs de la police française et espagnole, et c'est à notre demande express. Donc il est évident qu'il y a une responsabilité politique.
Moi, je suis un réalisateur. Je fais des films. En ce qui concerne ce film-là, je donne la parole à des militants, à des gens que je respecte beaucoup pour leur engagement. C'est tout.
Et en même temps, il y a une très jolie phrase dans le film.
Nous sommes pauvres peut-être, mais nous sommes pauvres d'avoir été pillés, pas pauvres de ne rien avoir. Si on regarde bien, aujourd'hui c'est nous qui pouvons être autosuffisants, si on reste chacun chez soi. Je ne suis pas sûre qu'ils peuvent se passer de nous.
Oui, ça c'est Clarisse à la fin du film qui... Clarisse est une femme très cultivée, hein, qui a fait des études, qui a vécu l'enfer. Oui, elle dit ça. C'est une jolie phrase. Effectivement, pour dire quelque chose du point de vue européen, je dirais ici, il y a quoi comme richesse ? Est-ce qu'il y a du pétrole ? Il y a de l'uranium, de la bauxite, de diamant, de l'or ici ?
La pauvreté est aussi un processus historique. La pauvreté n'est pas un statut des Africains. La pauvreté est un résultat. Ce n'est pas une condamnation génétique, c'est-à-dire raciale.
Moi-même, j'ai tellement pleuré au montage, en montant Clarisse, par exemple, en montant l'histoire des femmes, leur histoire du Maroc, des prisons algériennes. Les femmes ont été mises dans des prisons avec des hommes. C'est même pas la peine de détailler, hein, y a rien à dire. Quoi. Et puis tous ces gens qui sont morts, tout ce sang qui a été versé, nous encore, c'est rien. On peut verser 3 larmes parce que c'est un peu difficile, on est un peu ému, mais ces gens ont vécu l'enfer, des cauchemars. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je mets ces images en noir et blanc de témoignages, quoi, un peu en cadre et tout. Quoi.
On a enfin compris, ou on a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Nous sommes un continent, en fait, le plus riche du monde. C'est ça, la vérité. Il n'y a aucune raison qu'on vive la condition qui est la nôtre aujourd'hui.
Vous parliez tout à l'heure de la résistance de la société civile africaine. Dans quelle mesure elle est en train de se former, cette société civile africaine ?
Alors, je ne dirais pas que la société civile africaine se forme. Je dirais qu'il y a eu une émergence d'organisation de la société civile africaine à l'occasion de ce premier forum social africain qui s'est déroulé en 2002 à Bamako, à l'initiative d'Aminata Dramane Traoré. Et depuis lors, se sont organisés, développés des forums sociaux dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Et ce qu'il dit, Joseph Kizerbo, l'historien burkinabé, c'est que la solution n'est pas continentale, elle est intercontinentale. C'est-à-dire que les sociétés civiles doivent être en lien avec les sociétés civiles des pays du Nord, c'est ce qu'il dit, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe. Il faut plutôt parler de rencontre des peuples, plutôt que choc des civilisations. L'avenir est là, se rencontrer, se connaître. Et ça commence par connaître sa propre histoire. Ici, là, en Europe, en France en particulier, parce que je vis ici, les gens ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas leur propre histoire. Mais ici en France, qu'est-ce que savent les gens de leur propre histoire, de comment s'est fait la France, de comment s'est construite, qu'est-ce que c'est que la traite négrière, qu'est-ce que étaient les colonies, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui la dette, qu'est-ce que c'est que l'immigration. Les gens ne savent pas. C'est pour ça qu'aussi un film pareil touche les gens et les intéresse, parce que d'un coup, les gens comprennent mieux. Les gens demandent même, ont envie de comprendre. Et le système est très simple. Quand on voit un film comme Victime de nos richesses, un analphabète peut comprendre. Moi, j'ai fait des interviews avec Alifar Katouré, qui était analphabète, grand musicien. Mais ce mec, Alifar Katouré, paix à son âme, l'argent qu'il gagnait avec sa musique à travers le monde, il rentrait à Niafunke chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait à Niafunke ? Il a développé l'agriculture pour être autosuffisant. Il a développé, mais ça, c'est sur des hectares. À Niafunke, ils vivent, ils sont autosuffisants, ils cultivent, il y a des arbres fruitiers, ils font du riz, ils font tout. Donc les gens n'ont pas besoin des autres. Il a développé l'agriculture parce que c'est ça l'avenir, c'est de pouvoir être autosuffisant, déjà de se nourrir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les pays africains ? C'est qu'à l'époque des indépendances, on leur a dit « Ah, faites du coton, faites du café, faites du cacao ». Donc c'est ce que dit Samir Amin dans le film, il dit ça c'est un développement extraverti qui a été imposé à l'Afrique. C'est-à-dire qu'on produit pour l'extérieur, mais on ne pense plus à ces populations. Et on leur a promis, nous on va vous fournir des céréales, on va vous vendre des céréales à un prix incomparable, vous ne pourriez même pas produire à ce prix-là. Sauf que les prix des céréales ne sont pas décidés à Bamako, vous voyez, ils sont décidés à l'extérieur. Et les prix du coton et du café et du cacao, ce n'est pas non plus décidé à Bamako. Donc voilà, toute la stratégie de la dette est aussi liée à ça. Quoi. Développement, dette, agriculture, tout ça c'est lié. Quoi.
Oh, descendez! Descends! Saute sur lui! Move! Va! Finalement! Vas-y!
Non, c'était un petit film. Souvent, j'étais seul à tourner avec ma perche, caméra. Bon, donc c'était un peu compliqué. Quoi. Mais il se trouve que le film donc commence à tourner, a fait plusieurs festivals, a eu plusieurs prix, et avec le bouche à oreille, hein, une bonne expression française, bien de chez nous. Moi, je me considère aussi, je suis guinéen, mais je suis aussi français puisque ma mère est française. J'ai grandi beaucoup ici. Et avec le bouche à oreille, le film fait parler de lui. Donc je suis sollicité sans arrêt, de plus en plus, Là, je reviens à Stockholm où il y a eu les Journées européennes de développement. Il y avait un festival Cinéma Africa pendant les Journées européennes, d'ailleurs qui était aussi intégré aux Journées européennes, on va dire. C'est amusant parce qu'on entend Samir Amin quand même dénoncer l'Union européenne, qui leur dit que l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est une association de malfaiteurs qui devrait relever de la justice criminelle au sens strict du terme, c'est ce qu'il dit. Donc j'étais un peu angoissé avant d'y aller, mais... mais c'est ça. Donc le film, effectivement, tourne de plus en plus, et ça, c'est parfait, quoi. Et bon, je vais peut-être avoir quelques sous pour faire une version un peu plus propre au niveau du son et le balancer aux chaînes télé, voir si éventuellement un programmateur a les couilles pour le présenter.
Merci beaucoup.
Merci à nous.
C'était Cal Touré, le réalisateur du documentaire intitulé « Victimes de nos richesses ». Rendez-vous demain à 15h pour une autre chronique autour du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt qui se tient jusqu'au 11 novembre.